Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Aujourd'hui, nous abordons l'étude et l'écoute de deux pianistes, deux musiciens, qui ont un lien entre eux, Louis Moreau Gottschalk, né en 1821 et mort en 1869, que je vais développer, et Scott Joplin, né en 1868 et mort en 1917. Ils ne se sont pas connus, puisque l'un naît un an avant que le premier, Gottschalk, ne meure. Qui est Louis Moreau Gottschalk, qu'on a souvent surnommé le pianiste et aventurier? Il naît à la Nouvelle-Orléans d'un père anglais mais de souche allemande, d'où son nom Gottschalk, avec deux T-S-C-H-A-L-K, et d'une maman qui est née à Saint-Domingue, qui est une créole blanche. C'est un enfant prodige, comme beaucoup de musiciens que nous avons abordés. Il est tellement prodige qu'il vient en 1841, après avoir étudié avec François Le Tellier, maître de chapelle à la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans. Il vient à Paris en 1841 et il va être refusé au conservatoire parce qu'on considère le Zimmermann, qui est le directeur du conservatoire de Paris de l'époque, considère qu'il a des origines qu'il qualifie de sauvages. Bon, voilà, on apprécie évidemment de tels propos. Mais il étudiera malgré tout, bien sûr, la musique avec Charles Herlé, Stamati, qui deviendra le maître de Saint-Saëns. Donc il étudie avec des musiciens et compositeurs prestigieux et il prend des cours de composition. C'est surtout un pianiste virtuose. Il donne son premier concert chez Camille Pleyel, qui va enchanter le public parisien, et il va être particulièrement estimé par les virtuoses et pianistes et musiciens de son époque. Nous sommes dans plein romantisme à Paris, et il va être estimé très largement par Franz Liszt, bien sûr, qui a toujours cette capacité à aimer les autres quelque part et à les apprécier, et Chopin et d'autres. Voilà cette formation extrêmement classique, ce grand virtuose qui va ensuite, nous allons le découvrir, mener une vie absolument trépidante et d'aventure. Et j'annonce un premier morceau que nous allons écouter, qui s'appelle Caprice galop de concert et Souvenir de la Havane. Voilà, il y a toujours des intitulés assez compliqués chez lui. Et on retrouve du Liszt et du Chopin, mais c'est prodigieusement bien fait. Thank you. après être découvert par la vie parisienne, la vie musicale parisienne, Gottschalk va partir faire une tournée assez grande en Savoie, à Genève, Aix-les-Bains, et puis surtout pas mal en Suisse, bon, donc, dont Genève. Puis il va faire une tournée de concert en Espagne. Il revient en France et il part aux États-Unis en 1852. Concert à New York, grand succès, immense succès, on découvre ce pianiste virtuose. Et ensuite s'enchaînent des voyages à Cuba, au Canada, dans les Caraïbes, au Venezuela, en Guyane, en Guadeloupe. C'est-à-dire, on l'a surnommé un peu pianiste et aventurier. Ça n'est pas faux du tout. Et il joue ses œuvres. En fait, il joue ses œuvres et on considère qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en parcourant les continents, l'Amérique latine, les Antilles et Cuba. Et il a même vécu au Pérou un certain temps. Et il fait des tournées absolument triomphales. Et il compose, j'en parlerai un peu plus tard de son œuvre, il compose, il compose, il compose, il ne cesse de composer. Nous allons écouter un deuxième morceau qui s'appelle « Danse cubaine créole eyes »,« Les yeux créoles », l'opus 37. Extrêmement intéressant également, où on découvre toujours sa virtuosité et son imagination très fertile. Gottschalk a composé une œuvre immense. Ce sont des centaines et des centaines d'opus. Et il a abordé tous les genres de la musique. Alors bien sûr, de formation, il est pianiste et toute sa vie, il a été concertiste. Il a abordé toutes les œuvres qu'on peut imaginer au piano. Des tarentelles, bien sûr beaucoup de paraphrases, y compris des paraphrases d'opéra, d'un opéra de Gounod. Les polkas, les mazurkas, les valses, les ballades, scherzo, enfin toute la gamme d'œuvres pianistiques que l'on peut imaginer. Il a écrit un gros, très beau, on ne peut pas en passer un extrait parce qu'il faudrait vraiment le couper rapidement, c'est dommage, concerto pour piano. Et il est, et c'est le lien que va ensuite développer Bruno, il est le précurseur, dit-on, l'un des précurseurs du ragtime et donc, d'une manière plus générale, du jazz. C'est un aventurier qui a parcouru ainsi une bonne partie de la planète. Et son nom est quasiment inconnu. Pour ma part, je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas du tout son œuvre et je n'avais jamais écouté Gottschalk. Et ça vaut la peine de s'y pencher et de passer un certain nombre d'heures. Voilà, il a abordé au piano tous les styles possibles de la musique. Et il a même, c'est le dernier extrait, écrit une symphonie, plusieurs symphonies. Nous allons écouter le deuxième mouvement de sa première symphonie qui s'intitule « Fiesta Criolla ».
Après Louis Moreau Gottschalk, voici maintenant Scott Joplin. Des points communs entre ces deux compositeurs, hormis leur date de naissance et de mort, puisque Scott Joplin est né en 1868, un an avant la mort de Gottschalk. Donc ils se succèdent, mais ils n'ont aucun point commun musicalement. Néanmoins, quelques points communs dans leurs origines. Nous avons vu que Gottschalk avait une mère créole blanche issue de Saint-Domingue, tandis que Scott Joplin, lui, a des parents noirs. Son père, Gilles Joplin, est né esclave en 1842. Il faudra qu'il attende l'abolition de l'esclavage en 1865. Rappelons que les dates sont 1865, le 13e amendement qui proscrit l'esclavage aux États-Unis après la guerre de sécession entre le Sud et le Nord, puis le 14e amendement qui crée la citoyenneté américaine dès lors qu'on y est né ou naturalisé, et en le 15e amendement qui donne le droit de vote à tous les citoyens américains. Il a fallu toutefois attendre 1968 avec l'abolition des lois Jim Crow pour qu'il n'y ait plus de ségrégation dans les États du Sud qui étaient très attachés, sinon à l'esclavage, tout au moins à la ségrégation entre le noir et les blancs. Donc revenons à Scott Joplin, son père est né esclave, sa mère Florence Givens était femme de ménage et lavandière, il est donc né dans une famille on ne peut plus modeste, néanmoins l'environnement musical était là, présent, ses frères et sœurs ont joué de la guitare, de la trompette, ont participé à des chorales, rappelons l'importance des chorales dans le monde noir qui était pour beaucoup pratiquant à cette époque et chantait dans de nombreuses chorales. Scott Joplin entend du piano chez son voisin, il a l'opportunité d'en jouer dans la famille où sa mère est femme de ménage, et son professeur sera son voisin, Julius West. Son père, le père de Scott Joplin, était très ouvert à la musique, puisqu'il a même, malgré ses moyens modestes, lui a offert des cours de piano et lui a même acheté un piano. Ce professeur a été particulièrement judicieux parce qu'il lui a appris, au-delà du piano, l'harmonie, la composition et l'opéra. Venons-en à la première œuvre de Scott Joplin, nous verrons son parcours. Cette première œuvre, c'est l'Apple Myth Rag. C'est une œuvre qui a marqué l'histoire de la musique américaine et l'histoire du ragtime. Elle a été publiée à l'époque à 1 million d'exemplaires, ce qui est considérable. Donc écoutons cette œuvre qui est la plus connue pratiquement de Scott Joplin. Thank you. entendre un des premiers ragtime très populaires, puisque, comme je le disais, la partition, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de disque, mais la partition a été vendue à plus d'un million d'exemplaires. Ce ragtime, qu'est-ce que c'est? C'est une forme musicale écrite qui est issue d'un mélange entre la tradition, je dirais, de la musique européenne telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une forme bien construite, avec le mariage avec une danse syncopée issue des rythmes afro-américains. On a donc là l'expression musicale qui s'appuie sur une basse suivie d'un accord, que l'on entend d'une manière très caractéristique. Ce ragtime va être un des premiers balbutiements du jazz. Il évoluera, nous l'écouterons, en direction du stride. On en parlera plus tard dans l'émission. Et ce ragtime est issu, lui, aussi des danses, des premières danses des Noirs américains qui s'appelaient Cakewalk. À titre d'illustration, ce ragtime a tellement plu que Debussy en a écrit une forme de pastiche dans son album Children's Corner, Le coin des enfants, où nous avons le Gollywood's Cakewalk, qui est une forme de ragtime. Gollywood, c'était le nom d'un personnage de bande dessinée pour les enfants. Et donc, Debussy a écrit ça pour une petite fille. Écoutons le Gollywood's Cakewalk. Goldschalk, nous l'avons entendu, a eu une vie flamboyante de pianiste itinérant, un peu à l'image de Liszt. Liszt avait probablement le génie en plus, mais Louis Moreau Goldschalk avait un immense talent et était un très grand pianiste, d'ailleurs admiré par Liszt. Eh bien, lui, Scott Joplin, aura une vie beaucoup plus modeste, voire difficile. Alors qu'il avait un certain succès, il a joué dans des bars, il a eu du mal à imposer sa musique, bien qu'elle ait plu, et donc il aurait une vie très difficile, avec des hauts et des bas. Il aura séjourné à Saint-Louis, à Chicago, à New York. Mais il a eu aussi, de par sa formation musicale très classique, l'opportunité d'écrire un opéra, Tremonisha, qui est le premier opéra américain. Ce Tremonisha raconte un peu l'histoire d'une jeune femme afro-américaine qui est cultivée dans un milieu peu cultivé, et Scott Joplin est persuadé que l'émancipation viendra de l'éducation. On a là un peu une référence à La Flûte enchantée, où Mozart exprime que la culture, l'éducation permettent de grandir. Mais il faudra attendre néanmoins Porgy and Bess de George Gershwin pour imposer l'art afro-américain, puisque dans Porgy and Bess, tous les acteurs sont noirs. Et donc, en 1935, à la création de Porgy and Bess, ça a été un choc aux États-Unis, mais il a fallu du temps pour imposer cet opéra noir avec des artistes noirs, puisque les États-Unis avaient toujours un frein ségrégationniste. Néanmoins, Tremonisha est un très bel opéra qui nous montre tout le talent de compositeur de Scott Joplin, notamment les chœurs sont parfaitement réussis, très bien écrits. Il y a relativement peu de ragtime dans Tremonisha, mais c'est néanmoins deux extraits de ragtime que je vous propose d'écouter. Le premier, c'est Aunt Dinah, un très très beau ragtime chanté. Ce ragtime chanté, un deuxième ragtime dans Tremonisha, dont le titre est We're Going Around. C'est à nouveau un ragtime extrêmement enlevé qui nous montre tout le talent de Scott Joplin. Scott Joplin a eu une fin de vie difficile puisqu'il était atteint par la syphilis. Après avoir eu plusieurs épouses, il s'installe à New York, il fonde une maison d'édition. Malheureusement, ses dernières compositions ont été perdues, ce qui est bien regrettable puisqu'il y avait notamment un concerto pour piano. On ne sait pas, selon les auteurs, s'il a été un très grand pianiste ou un pianiste moyen. Probablement a-t-il été un excellent pianiste. Nous avons d'ailleurs trace de ses enregistrements sur rouleau, comme on le faisait à l'époque. Mais il est probable que sur la fin de sa vie, la syphilis qui permet difficilement aux doigts de se coordonner a nuit à l'exercice de son talent. Il est donc mort en 1917, hospitalisé, puis dans un hôpital psychiatrique de la syphilis. Nous allons écouter son air le plus connu, puisqu'il a été pris dans un film qui s'appelle L'Arnaque. Le titre d'origine, c'est The Entertainer. C'est donc un morceau de ragtime très fameux, qui est passé vraiment à la postérité. peux pas parler au titre de Scott Joplin de jazz vraiment, mais il s'agit des prémices du jazz. Le ragtime, ce rythme syncopé avec une basse suivie d'un accord qui va créer un décalage avec la main droite, qui va donner un rythme chaloupé. C'est vraiment le début de ce qui va devenir le jazz avec le stride. Alors, qu'est-ce que le stride? Eh bien, c'est très difficile à définir, mais c'est sur la forme du ragtime. Je rappelle que le ragtime était écrit, ce sont donc des compositions vraiment issues d'un mélange entre les rythmes afro-américains et la musique classique française et européenne très bien construite. Eh bien, ce ragtime va s'émanciper, il va devenir libre. On aura toujours la même basse, c'est-à-dire une basse suivie d'un accord qui crée un rythme, mais la main droite va s'envoler, va improviser. Et qui dit improvisation, eh bien ça y est, on est dans le jazz. Les grands du jazz, c'est au début pour le stride James P. Johnson, puis après on va avoir des très très grands jazzmen, avec eux on peut parler de jazz, avec Art Tatum, précédé d'ailleurs par un très grand pianiste auquel nous avons consacré une émission, Fats Waller. Et puis il faut aller pratiquement jusqu'à Peterson, qui est un amoureux du stride. Donc on est là dans le jazz. On peut donc dire que Scott Joplin a été un des précurseurs de ce qui est devenu le jazz avec le stride. Écoutons maintenant James P. Johnson dans Carolina Shout. Revenons pour conclure à Louis Moreau Goldschalk dans une œuvre peut-être inattendue, un Ave Maria, où vous allez entendre le talent lyrique, le talent de compositeur de thèmes, avec ce très bel air chanté, l'Ave Maria de Goldschalk.
Thank you.
Vous avez écouté au cours de cette émission de Louis Moreau Gottschalk, Souvenir de la Havane, un caprice galop de concert par Ludovic Amadeus Selmy, puis Oros Criollos, une danse cubaine par Alain Mandel, ensuite la Fiesta Criolla, extrait de la Nuit des Tropiques par l'orchestre du Festival de Bâle, ensuite de Scott Joplin, Maple Reef Rag par Dario Ronchi, suivi de Debussy, extrait des Children Corner, Gollywog Cakewalk par Evgeny Kissin, puis de Scott Joplin, extrait de son opéra Tremonisha, l'acte 2, Houndina, et l'acte 1, We Are Going Around, de Ragtime à l'opéra, avec Gunther Schuller dirigeant le grand opéra orchestre de Houston, ainsi que les chœurs du Grand Opéra de Houston. Puis le très fameux Entertainer, l'arnaque de Scott Joplin au piano. Ensuite, James P. Johnson, lui-même au piano dans Carolina Shout. Puis l'Ave Maria de Louis Moreau Gottschalk par le symphonique orchestra du festival, dirigé par Richard Rosenberg, la soprane étant Melissa Baric. Paul et moi vous souhaitons une bonne fin de mois et vous donnons rendez-vous le mois prochain.